Alors le titre du message de ce matin est « Entrer dans les promesses de Dieu ». Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour l'opportunité que nous avons de nous rassembler ici, dans ces lieux. Comme nous l'avons chanté, tu es le sujet de notre joie. Seigneur, tu es notre victoire. Tu es celui au pied duquel on peut déposer tous nos soucis, parce que tu es bon. Tu es si bon, Seigneur, tous les jours. Seigneur, à présent, nous voulons être à ton écoute. Nous te demandons que par ton esprit, tu prépares nos cœurs à entendre ta parole. Aide-nous à la comprendre, Seigneur. Viens nous bousculer ce matin. S'il y a des choses qui doivent changer dans notre cœur ou dans notre vie, montre-les-nous. Et par ta grâce, Seigneur, donne-nous de vivre ta parole pour rentrer dans tes promesses, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, s'il y a bien une chose merveilleuse qu'on découvre sur Dieu quand on ouvre la Bible, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Il manifeste chaque jour sa bonté envers nous par des moyens tellement variés, on ne pourrait pas les compter. En général, on cherche souvent les grandes choses, mais le simple fait de pouvoir se réveiller en vie le matin, c'est une grâce. La Bible dit que c'est Dieu qui donne le mouvement, la vie et l'être, aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Si nous avons à manger à notre table, si on a de quoi s'habiller, si on a un toit au-dessus de notre tête, c'est une manifestation de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Et il se trouve que Dieu tient encore de nombreuses bénédictions en notre faveur. Ce sont toutes ces promesses dans la Bible. Alors ce matin, j'ai oublié un petit livre, ça s'appelle « Promesses de la Bible pour vous ». Vous pouvez l'avoir à la centrale biblique, je pense. Mais pour ceux qui connaissent ce livre, j'ai bien aimé la démarche de l'auteur. Il a passé son temps à lire la Bible et à compiler toutes les promesses. Chaque fois qu'il tombait sur une promesse, il prenait le verset et le mettait dans son livre. Le livre fait plus ou moins 1 cm à 2 cm d'épaisseur. Extraordinaire le nombre de promesses que Dieu nous fait dans la Bible. Des promesses que Dieu est prêt à tenir, puisqu'il est vrai. Dieu ne ment pas. Quand il dit oui, c'est oui. Seulement, Dieu n'impose pas ses bénédictions. Dieu ne nous force pas à entrer dans ses promesses. Il y a un verset dans la Bible, simplement pour le citer, où Dieu, s'adressant au peuple d'Israël, leur dit ceci, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » afin de vivre. C'est comme ça que Dieu se comporte. Il a préparé de bonnes choses en réserve, mais il ne nous pousse pas, il ne nous oblige pas à entrer, mais il nous y encourage. Il dit « Choisis ça, je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois béni. » Entrez dans les promesses de Dieu. Il y a bien longtemps, Dieu avait fait une promesse à un homme dont nous avons certainement tous déjà entendu parler, c'est Abraham. Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils. Il avait du mal avec son épouse. Ils étaient arrivés à un âge assez avancé, ils n'avaient pas d'enfant. Et Dieu lui avait promis un fils. Et même bien plus, une descendance qui deviendrait un peuple, le peuple d'Israël. Puis Dieu a dit à ce peuple, je donnerai un pays, du repos, une bénédiction. Il y avait une promesse à la clé. Quand on ouvre la Bible et quand on commence à la lire dans le livre de la Genèse, on découvre comment ce peuple s'est constitué. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Puis le livre de l'Exode nous apprend que ce peuple qui était constitué a été réduit en esclavage pendant 400 ans. Puis Dieu va les délivrer. C'est les 10 plaies d'Égypte avec Moïse. Et Dieu va ensuite les conduire dans la terre promise, dans le livre de Josué. Alors ce matin, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Josué. Je vous invite à me rejoindre. Josué au chapitre 5, et nous lirons les versets 13 à 15. Alors le temps que vous trouviez le verset, je vais peut-être juste donner quelques mots sur ce livre. Alors je ne le cache pas, dans l'Ancien Testament, c'est mon livre préféré, Josué. Quand j'étais ado, j'aimais bien le lire, j'avoue que c'était surtout pour les bagarres que je le lisais, mais en grandissant, je me suis dit, il y a quand même des leçons de foi qui nous concernent, pour nous qui voulons marcher avec le Seigneur. Le livre de Josué explique comment le peuple d'Israël va s'emparer de la terre promise. Comment ils vont entrer dans les promesses de Dieu. Alors c'est vrai, il y a quand même plusieurs siècles qui nous séparent des événements qui sont relatés, plus ou moins 3400 ans, les spécialistes ne sont pas à 100 ou 200 ans près, 3400 ans plus ou moins qui nous séparent des événements rapportés dans le texte. Les événements concernent principalement les Juifs, le peuple d'Israël. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Juifs ce matin, moi je ne suis pas Juif. Les événements se passent sous l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui nous sommes dans la Nouvelle Alliance, l'Alliance de Grâce en Jésus-Christ, que nous avons commémoré il y a quelques instants à la Sainte Cène. Mais il n'empêche que nous avons affaire au même Dieu, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a donc des leçons à tirer sur la façon dont Israël est entré dans les promesses de Dieu. Voici ce que nous lisons, Josué chapitre 5, à partir du verset 13. Nous lisons, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou es-tu pour nos ennemis ?» L'homme répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et maintenant j'arrive. » Josué tomba le visage contre terre, il adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Jusque la lecture. Alors on a ici une rencontre assez insolite, et nous allons en tirer trois enseignements pour nous ce matin, trois enseignements dans l'idée d'entrer dans les promesses de Dieu. Premier enseignement, les promesses de Dieu sont pour celui, ou celle bien sûr, donc pour tous ceux qui laissent tout de côté pour suivre Dieu. Accepter de tout laisser de côté pour suivre Dieu. Alors dans le chapitre 5, nous nous trouvons au tout début de la conquête, la bataille va bientôt commencer. Le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, il a traversé le Jourdain, c'est la première étape, mais ils ne sont pas encore propriétaires de la terre promise. Ils ne sont pas encore entrés dans la promesse. Ils ne sont pas encore en train de jouir de leur héritage, de se reposer. Ils vont devoir se battre pour prendre la terre promise. Verset 13, nous rencontrons Josué. Josué, c'était le chef du peuple d'Israël. C'est lui qui a succédé à Moïse. C'était le général en chef des armées d'Israël, en quelque sorte. Alors Josué est tout près de Jéricho. Jéricho était la première étape dans la conquête. C'est une ville qui existe encore aujourd'hui, hein, une ville millénaire, qui était reconstruite par la suite. Et c'est la première ville qui bloque la route à Israël. Israël doit faire tomber cette ville. Ils doivent l'envahir, ils doivent la conquérir pour pouvoir poursuivre la conquête de la terre promise. Alors en bon général, on peut imaginer un peu la scène. Hein, Josué était seul apparemment dans le texte, tout près de la ville. Josué est un homme de guerre. Quand on est un homme de guerre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait du repérage. Peut-être que Josué est en train de se dire, il y a des murailles dans cette ville. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais avoir besoin d'échelles, de tours de siège. Il y a des portes qui sont épaisses. Il me faudra un bélier pour défoncer les portes. Ou il faudra que je brûle les portes. Il y a des soldats avec des arcs à flèches. Je vais devoir me protéger. Il me faudra des boucliers, des épées. Très certainement, le texte ne le dit pas, mais on peut supposer que Josué était certainement en train de faire sa stratégie, peut-être. Soudain, la Bible nous dit qu'il va y avoir une rencontre un peu insolite. Un homme s'approche de lui avec une épée à la main. Je me suis déjà fait agresser une fois à Namur avec quelqu'un avec un couteau. Quand il s'approche de vous, on n'est pas très sûr. Ben, là, il y a quelqu'un avec une épée qui s'approche de Josué. Hein? Josué est un homme de guerre. Aussitôt, il va à la rencontre de l'étranger et lui dit au verset 13, « Est-ce que tu es pour nous ou contre nous ?» On sent le militaire, hein. Peut-être que Josué avait son épée à la main en disant « Qui va là? T'es qui, toi ?» Sur quoi l'étrange visiteur va lui donner une réponse, et la réponse c'est « Non ». Non, sous-entendu « Je ne suis pas avec toi » ou « Je ne suis pas contre toi ». Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et maintenant j'arrive. Nous apprenons que c'est le chef de l'armée de Dieu qui vient vers Josué, rien que ça. Le général en chef des armées célestes, pas des armées terrestres ou des armées d'Israël, des armées de Dieu. On a donc deux hommes de guerre qui se rencontrent, deux chefs militaires qui se rencontrent. Alors quand deux généraux se rencontrent, ils vont discuter en général, de stratégie militaire. Hein. C'est quand deux pasteurs se rencontrent, ils parlent de leurs églises, même quand les épouses essaient de les tirer sur les côtés. Quand il y a deux électriciens qui se rencontrent, ils parlent électricité. Quand deux généraux se rencontrent, ils parlent armée, stratégie. On a donc Josué et le chef de l'armée de l'Éternel qui vont discuter sur la stratégie à employer pour prendre Jéricho, pour la faire tomber. Ou autrement dit, sur la stratégie, sur la méthode pour entrer dans les promesses de Dieu, pour avoir du repos. Cependant, quand on regarde la conversation, il ne faut pas attendre longtemps pour se rendre compte que les deux protagonistes ne discutent pas d'égal à égal. C'est pas que le chef de l'armée de l'Éternel s'assied dans un coin et dit « Alors Josué, c'est quoi ta stratégie ?»« Oh, c'est pas mal ça, des béliers, j'avais pas pensé. » C'est pas comme ça que ça se passe. Au verset 14, nous lisons « Josué tomba le visage contre terre et il adora. » Ce n'est pas une rencontre d'égal à égal. Alors ça pourrait surprendre, hein, pour nous qui sommes chrétiens, quand on lit ça, il y a les poils qui se dressent, on se dit « Mais comment est-ce qu'il peut adorer un ange ? Il n'y a que Dieu seul qu'on peut adorer. » Alors un petit peu plus loin, quelques versets plus bas, Josué chapitre 6, verset 2, il nous est indiqué que l'ange n'est personne d'autre que Dieu. C'est Dieu qui vient vers Josué. Je vais faire une toute petite parenthèse ici. Quand on ne connaît pas bien le texte, on serait tenté de dire qu'il y a une contradiction. On nous parle d'un ange, du chef de l'armée de l'Éternel, puis on nous parle de Dieu. Ce n'est pas du tout une contradiction. En théologie, on appelle ça une théophanie. Une théophanie, retenez bien le mot, surtout si vous jouez au Scrabble, ça peut vous faire gagner des points. Une théophanie, c'est quoi une théophanie? C'est tout simplement une manifestation visible de Dieu. C'est Dieu qui se manifeste, mais il contient sa gloire, parce que Dieu est tellement saint et tellement glorieux que si on le regardait face à face, on mourrait. Et parfois, dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste sous forme d'un ange, ou sous forme de l'ange, enfin le chef de l'armée de l'Éternel. La Bible d'ailleurs sous-entend que cet ange-là, ou ce chef d'armée, serait Jésus-Christ. Comment on peut le savoir? L'apôtre Paul, dans Corinthiens chapitre 10, dit que c'était le Christ qui marchait devant les armées d'Israël. Tiens, quand on est dans l'Ancien Testament, on apprend que c'est l'ange de l'Éternel. Là, on a le chef des armées célestes. Dans l'Apocalypse, lorsque Jésus-Christ revient, c'est lui qui est à la tête des armées célestes. Donc, on peut supposer, il y a de grandes chances que ce soit Jésus-Christ, ou plutôt Dieu le Fils, parce que le jour de Noël n'était pas encore venu, Dieu le Fils qui se manifeste ici. Fin de parenthèse. Dieu s'approche donc de Josué dans le but de tenir sa promesse. Mais pour ce faire, Dieu ne vient pas comme un allié qui va bénir les stratégies de Josué, les idées de Josué, les plans de Josué. C'est pas Josué qui va dire ce qu'il convient de faire, et ensuite, Dieu, maintenant, tu vas bénir, tu vas faire un miracle. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu vient comme celui qui est la tête des opérations. Il est le Seigneur. C'est lui qui va donner les ordres. C'est lui qui va expliquer comment on s'y prend pour entrer dans les promesses, pour goûter à la bénédiction. Voilà pourquoi la question de Josué: es-tu pour nous ou contre nous? Dieu va lui répondre non, ni l'un ni l'autre. L'enjeu n'est pas que Dieu soit avec moi dans ce que je prévois de faire ou de ce que je suppose qui est bon. L'enjeu est d'être avec Dieu, dans ses plans. C'est ça qui importe. Accepter la stratégie de Dieu, aussi improbable puisse-t-elle être. Nous aurions même pu lire tout chapitre 6. Chapitre 6 nous explique comment le peuple d'Israël va s'y prendre en suivant les directives de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'était pas d'utiliser des catapultes, des béliers, des tours de siège. C'était de tourner en rond autour d'une ville. J'ai pas fait le service militaire, mais pour les hommes ici qui ont déjà fait le service militaire, qui ont quelques notions de stratégie, c'est pas vraiment une stratégie très intelligente que de tourner en rond autour d'une ville pour la faire tomber. Pourtant, c'est le plan de Dieu. Tout à fait improbable, c'est le plan de Dieu. Nous pourrions même aller plus loin. Prenons le message de l'Évangile. Quel est le plan de Dieu pour nous sauver? Quel est le plan de Dieu pour nous donner la vie éternelle, pour faire la paix entre lui et nous? C'est la croix. L'apôtre Paul dit l'Évangile est une folie pour ceux qui se perdent. Pourtant, c'est le plan de Dieu. Ça marche. Entrer dans la stratégie de Dieu, c'était nécessaire, car l'ennemi que Josué devait affronter était bien plus fort que lui. À l'époque, pour ceux qui aiment bien l'histoire, si vous vous intéressez à l'Antiquité dans cette région, la Palestine était occupée par des cités-États qui passaient leur temps à se faire la guerre. Jéricho faisait partie de ces cités-États. C'était donc des soldats aguerris, des gens qui avaient la mentalité de toujours se protéger en cas d'attaque. Ils savaient se battre. Israël, non. Israël, c'était un peuple d'esclaves qui avait tourné en rond pendant 40 ans dans le désert et qui devait livrer bataille. Ils n'avaient pas d'armée régulière, pas d'équipement, pas d'entraînement. Ils n'avaient que Dieu. De la même façon, la réponse de Dieu à Josué nous apprend que pour entrer dans les promesses de Dieu, si nous voulons connaître le repos pour notre âme, si nous voulons goûter aux bénédictions que Dieu promet, nous devons être prêts aussi à laisser Dieu gérer la situation, accepter ses plans, accepter le chemin qu'il trace, même si ce n'est pas toujours le plus confortable, accepter sa méthode, aussi improbable puisse-t-elle être. Nos efforts doivent toujours s'inscrire dans la volonté de Dieu, parce qu'il y a des efforts à faire. C'est pas Dieu qui devait tourner en rond, c'est pas Dieu qui devait faire confiance. C'était la part du peuple d'Israël de faire ça. De la même façon, nous avons une part, nous avons des efforts aussi à faire, mais ils doivent toujours s'inscrire dans la volonté de Dieu. Et cela n'est possible que si nous reconnaissons la grandeur de celui qui veut livrer bataille pour nous, la grandeur de celui qui veut conduire les opérations. Il est digne de confiance. Une fois, je discutais avec un jeune. Il avait commencé à se poser des questions, peut-être d'ordre théologique, très très compliquées, des questions pour lesquelles même les théologiens, ceux qui sont les plus qualifiés, n'arrivent pas à répondre, tout ce qui touche la souveraineté de Dieu. Mais ce qui est frappant, quand on ouvre la Bible, on découvre que ce Dieu-là a donné sa vie pour nous. Je peux peut-être pas toujours tout comprendre de ce qu'il demande de moi, mais je sais que je peux lui faire confiance parce qu'il a donné sa vie pour moi. Reconnaître la grandeur de ce Dieu qui dirige les opérations. Comprend pas toujours, mais digne de confiance, suffisant, tout-puissant. Nous lisons que Josué abandonna tout orgueil. C'était quand même le général, c'était quand même le chef des armées d'Israël. Il s'incline face contre terre devant Dieu, il se met à l'adorer. Rappelons-nous que bien souvent, la tentation nous guette de faire nos projets, nos plans, nos stratégies sans Dieu et de chercher ensuite à ce que Dieu entre dans ce que nous voulons entreprendre. Bien souvent, c'est ça que nous faisons. Je prévois de faire ça, je prévois de faire telle étude, tel travail, ou même dans la façon de servir Dieu. Je prévois que les choses se passent comme ça dans l'église ou dans mon ministère. Puis on dit, Seigneur, tu vas bénir. Mais avons-nous pris le temps de nous arrêter et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Apporte-moi ton conseil. La place de Josué et du peuple à sa suite était d'entrer dans la victoire que Dieu voulait leur offrir, dans les plans de Dieu. De la même façon, le chrétien ne tire pas Dieu dans ses projets, mais il s'humilie et cherche à entrer dans les projets de son Dieu. C'est l'exemple que Jésus laisse. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus avait peur de la croix. Il va dire, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il poursuit. Non pas que ma volonté se fasse, mais que la tienne se fasse. C'est la leçon aussi que Jésus nous apprend dans la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, pas ma volonté, que la tienne soit faite. Première leçon donc, être prêt à tout laisser de côté, nos plans, nos stratégies, pour suivre les plans de Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait exactement ce que nous avons besoin, c'est lui qui veut nous rendre heureux, qui en a la puissance et qui est digne de confiance. Deuxièmement, un peu plus difficile aussi, il faut le reconnaître, tout chrétien lutte avec ça. Les promesses de Dieu sont pour celui qui obéit à la parole de Dieu. Souvent, quand on parle d'obéissance, ça fait un petit peu esclavage, on n'aime pas entendre ça, mais c'est dans ce genre de relation que nous sommes engagés avec Dieu. Une relation d'obéissance, une relation de soumission. Pas une soumission violente, mais une soumission volontaire. Je veux me soumettre à Dieu parce que je l'aime, parce que je sais qu'il veut prendre soin de moi et qu'il en est capable. C'est quand même une différence avec un rapport d'esclavage ou un rapport violent. Ce n'est pas un rapport de violence avec Dieu. Nous lisons que Josué s'incline face contre terre, il adore Dieu, et au verset 14, nous lisons ceci, Josué va dire « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Dans ce passage, nous assistons à une des rares rencontres où Dieu rencontre quelqu'un face à face, où il y a un dialogue en direct en quelque sorte, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible qui ont ce privilège, il y a Abraham notamment, Moïse, Samuel, les apôtres, quelques-uns, mais c'est pas souvent que Dieu descend, qu'on peut le voir, et dialoguer directement avec lui. Josué parle à Dieu. Nous pourrions même dire qu'il est en train de prier, puisque prier, c'est s'adresser à Dieu. Et s'il y a bien quelqu'un qui avait un tas de choses à demander à Dieu, c'était Josué. C'est vrai, qu'aurions-nous demandé à la place de Josué? Josué aurait pu dire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, s'il te plaît, donne-moi de la sagesse pour prendre de bonnes décisions et bien diriger les armées. Ça aurait été une bonne prière. Josué aurait pu dire, Seigneur, fais qu'il se produise des miracles et des prodiges. Je veux voir quelque chose d'extraordinaire. Écrase nos ennemis. Josué aurait pu dire ça. Mais ici, dans ce que nous venons de lire, Josué a choisi de peser ses mots. En fait, le peu que Josué va dire, c'est pour s'effacer. C'est pour laisser toute la place à Dieu. C'est pour l'écouter, entendre ce que Dieu a à dire. En fait, si nous lisons toute la suite de la rencontre, Josué ne dira plus rien. C'est Dieu qui est debout, c'est Josué qui est incliné. C'est Dieu qui parle, c'est Josué qui écoute. Que dit mon Seigneur à son serviteur? Le roi Salomon, dans toute sa sagesse, a écrit ceci dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1. Il a écrit « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu ». En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. La sagesse, ce n'est pas se plonger dans un flot de paroles quand on est devant l'Éternel, mais peser ses paroles et peut-être plutôt l'écouter. C'est lui qui a les paroles de la vie, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu as à dire, Dieu ? Se mettre à l'écoute, c'est une attitude de sagesse. Remarquons aussi que la suite du passage nous montre la façon dont Josué écoute Dieu. Verset 15, à la fin, nous lisons « Josué se conforma à l'ordre de l'Éternel ». Un peu plus loin, au chapitre 6, nous apprenons que Josué va faire exactement tout ce que Dieu a ordonné, sans dévier ni à droite ni à gauche. Précisément, il va tout mettre en pratique. J'aime bien la façon dont le livre de Josué nous montre ici ce que c'est l'écoute. La véritable écoute conduit à l'obéissance. Il ne s'agit pas d'entendre la parole de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de la connaître. Encore faut-il qu'elle pénètre mon cœur. Moi, j'aime bien dire que la Bible doit prendre l'ascenseur. Une fois qu'elle est passée par là et qu'elle est entrée là-dedans, et que je l'ai comprise, elle doit descendre dans le cœur, elle doit devenir vie, elle doit trouver un écho. C'est aussi la leçon que Jésus a donnée dans le sermon sur la montagne. À la fin, Jésus dira « Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique ressemble à un homme qui a construit sa maison sur le roc. » Jésus dit « Si tu veux réussir ta vie, bâtis ta vie sur la parole de Dieu. » Il y a une promesse. Il y a quelque chose que Dieu tiendra. D'ailleurs, le début du livre de Josué contient aussi une vibrante exhortation. C'est un de mes versets préférés dans la Bible. Le verset dit ceci, que ce livre de la loi, donc la parole de Dieu, ce que Josué avait déjà, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Josué se retrouve du jour au lendemain à la tête d'un peuple, 1 million d'hommes ou peut-être plus. Il a dû se dire, qu'est-ce que je fais? Dieu dit, prends la parole. Médite-la, mets-la en pratique, tu vas avoir du succès, tu vas y arriver. Peut-être un contre-exemple dans la Bible, c'est le tout premier roi d'Israël, le roi Saül. Le roi Saül, malheureusement, payera le prix fort pour ne pas avoir écouté Dieu lors d'une bataille. Il perdra sa vie, sa couronne et ses fils, après que le prophète Samuel lui ait dit ceci, « L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. » C'est quoi les sacrifices à l'époque? C'était offrir une chèvre ou un mouton à Dieu. C'est quoi les sacrifices pour nous aujourd'hui? On pourrait prendre simplement le culte le dimanche matin, chanter, prier. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. C'est triste à dire, mais trop nombreux sont les chrétiens qui se précipitent dans les concerts de louanges, qui chantent et qui prient, et c'est une bonne chose, mais qui ailleurs ne sont pas prêts à obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça, écouter Dieu. La parole de Dieu, au travers de l'exemple de Josué, trace ainsi une voie pour le chrétien qui veut entrer dans les promesses de Dieu, qui veut goûter aux bénédictions que Dieu tient en réserve. Il s'agit d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu. Et cette disposition de cœur se manifeste d'abord dans notre intimité avec Dieu. Ça commence de l'intérieur et s'agit vers l'extérieur. Notre intimité avec Dieu, dans notre vie de prière. Par exemple, que notre vie de prière ne soit pas simplement des prières où on informe Dieu, où on exige à Dieu de bénir. Parfois j'entends « au nom de Jésus, je veux qu'il y ait ça, au nom de Jésus, je veux qu'il y ait ça ». Ça ne marche pas nécessairement comme ça. Que cette disposition de cœur d'obéir à Dieu se manifeste dans la vie de prière. Que nos prières soient le reflet d'un désir de rechercher la volonté de Dieu, de dire « Seigneur, tu sais ce qu'il y a de meilleur. C'est quoi le plan à suivre ?» Dans notre écoute aussi de sa parole, rechercher à faire sa volonté. Ici, le livre de Josué nous montre que le peuple d'Israël est à la veille d'une bataille. Une bataille qu'humainement ils ne pourront pas remporter. Une bataille qui est une étape nécessaire et vitale pour entrer dans les promesses de Dieu. Mais cette bataille ne pourra être remportée que par la puissance de la parole de Dieu. En respectant ce que Dieu a dit. En exécutant fidèlement et avec confiance tout ce que Dieu dira. Il en est de même pour nous si nous aspirons à goûter aux promesses de Dieu. Le livre des psaumes renferme 150 psaumes qui sont des prières, qui sont des chants. Il y a 5 livres dans le livre des psaumes, 5 parties, et le tout premier psaume contient une promesse. Heureux. J'aime bien, c'est le programme. Dieu veut rendre l'homme heureux. Heureux. Heureux quoi? Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, deuxième enseignement pour ce matin, entrer dans les promesses de Dieu implique d'obéir à Dieu, d'écouter, de mettre en pratique, de lui faire confiance. Troisième et dernier enseignement pour ce matin, encore plus difficile, il faut le dire, entrer dans les promesses de Dieu demande de respecter sa sainteté. Respecter sa sainteté. Si je veux m'entendre avec Paul et que nous allons faire une promenade au Bois des Rêves, je connais un petit peu ici avec le camp de Limoges, très bel endroit d'ailleurs, mais que je passe mon temps à insulter Paul pendant toute la durée de la promenade et à lui jeter des cailloux, je pense que nous n'allons pas rester en bons termes. Peut-être qu'il y aura eu promenade, si on peut parler de promenade, mais il n'y aura pas l'harmonie. Si je veux marcher avec Dieu, je dois respecter qui il est. Sa sainteté, il est saint. Dans notre rencontre ici, Josué exprime son désir de se mettre à l'écoute de Dieu, que dit l'Éternel à son serviteur, et Dieu va lui répondre une réponse un peu curieuse au verset 15. Dieu lui dit, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quoi cette réponse? Pourquoi est-ce qu'il doit retirer ses chaussures, hein? Ça fait un peu bizarre. Alors, la Bible n'est pas en train de dire que pour prier ou pour parler à Dieu, il faut le faire à pieds nus. Si vous le faites, c'est de bon cœur, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas une doctrine dans le texte ici. En fait, ce que Dieu demande ici à Josué, c'est ce qu'il avait demandé à Moïse aussi. Pour ceux qui se souviennent, lors de l'épisode du buisson ardent, quand Moïse va s'approcher de Dieu, Dieu va lui dire, tu retires tes chaussures parce que l'endroit ici est saint. Il y a l'idée que la sainteté de l'Éternel est quelque chose de si glorieuse qu'elle en devient palpable, que tout ce qui approche Dieu ne reste pas indifférent, qu'on ne piétine pas la sainteté de l'Éternel. En tant qu'être humain, on ne peut qu'en dire, tellement que c'est glorieux. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Il suffit de lire simplement les visions d'Ézéchiel, de Jérémie, d'Ésaïe. Il ne trouve pas les mots pour exprimer combien Dieu est saint. On ne piétine pas la sainteté de l'Éternel. Peut-être pour prendre une illustration, c'est un peu comme à la maison. Quand Aurélien nettoyait le sol, je ne fais pas n'importe quoi. Quand je rentre du jardin, je n'arrive pas avec mes grosses bottes comme ça. Hein, pour les hommes mariés, ils savent très bien, si on essaye, on a des problèmes après. On doit mettre les petits chaussons, on doit attendre que ça sèche. Il y a un peu cette idée, on ne fait pas n'importe quoi dans la présence de Dieu. C'est propre, c'est saint, on respecte. L'Écriture attire ici notre attention sur un point qui n'est pas négociable et qui est souvent négocié. Respecter la sainteté de mon Dieu. Comme le dit la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Bon, ça fait un mot très technique, hein, comme ça, un mot très d'église, sanctifié. Peut-être pour faire simple, sanctifier, ça veut dire mettre à part. Par exemple, quand c'est l'anniversaire de mon épouse, que j'ai envie de lui offrir un cadeau, je vais mettre à part le cadeau. Je vais chercher à ce que le cadeau lui plaise, lui corresponde. Je vais réfléchir, elle aime bien telle ou telle chose. Je mets à part le cadeau pour faire plaisir, pour exprimer mon amour. Et cette idée-là, quand la Bible nous appelle à nous sanctifier en tant que croyants, le cadeau, c'est moi. Je me mets à part pour mon Dieu, parce que lui-même s'est offert à moi en premier. C'est ça, se sanctifier. Et donc, comment est-ce qu'on se met à part? En se détournant du péché, en se détournant de ce qui ne plaît pas à Dieu, de ce qui lui fait de la peine. J'ai envie de dire que c'est un peu normal, parce que si on veut marcher avec un Dieu qui est saint, il faut se détourner du péché. La sainteté était déjà l'ordre que Dieu avait donné au peuple d'Israël, et c'est aussi l'ordre qui résonne dans le Nouveau Testament. Je regrette parfois que des chrétiens disent « Oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est le Dieu qui est sévère et qui est en colère, et dans le Nouveau Testament, c'est le Dieu de grâce et le Dieu d'amour. » Oui, c'est en partie vrai, mais ce Dieu ne change pas. C'est exactement le même. Dieu avait dit au peuple d'Israël, Dieu leur avait dit « Vous serez saints, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. » Il a dit ça dans Lévitique 11, 4 et 19, 2. Et dans le Nouveau Testament, Dieu dit aux chrétiens, en 1 Pierre 1, 16, « Vous serez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. » Dieu n'a pas baissé la barre. Dieu n'a pas diminué les standards de sa sainteté. Il exige de son peuple le respect, le même respect que dans l'Ancien Testament. Les moyens ont changé, mais les exigences sont les mêmes. Pour le peuple d'Israël, ils avaient reçu la loi de Moïse, 613 commandements, si vous comptez dans le Pentateuque le nombre d'ordres que Dieu donne à Israël, il y en a 613. Certains disent qu'il y avait en plus une tradition orale qui s'est perdue. 613 injonctions pour vivre dans la présence de Dieu. Extraordinaire. Je n'ose même pas imaginer vivre ma vie chrétienne avec une liste de 613 choses à faire ou à ne pas faire. Heureusement que pour nous le système est différent, mais c'est pour dire combien Dieu était saint. Enfin, combien Dieu est saint et combien il exigeait à cette époque qu'on respecte sa sainteté de cette façon. La loi de Moïse prévoyait aussi la mise à l'écart de toutes les personnes qui ne respectaient pas la loi. Parfois même, elles pouvaient être temporairement exclues du peuple ou mises à mort. Il y a ce fameux épisode où les fils d'Aaron, qui étaient quand même des prêtres, c'était pas n'importe qui, hein, ils avaient le privilège d'approcher Dieu d'une façon particulière par rapport aux autres membres du peuple. Ils vont offrir un culte à Dieu, mais sans respecter ce que Dieu a dit. La Bible dit que Dieu va les brûler sur place. Et Dieu dira ceci, « Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et ma gloire révélée devant tout le peuple. » Quand je lis ça, j'ai souvent la chair de poule. Je me dis, c'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi. Mais dimanche matin, quand je veux m'approcher de l'Éternel, ou quand je me lève pour prendre la Sainte Cène, est-ce que la sainteté de mon Dieu est respectée? Est-ce que je suis mis à part? Est-ce que son nom est sanctifié? Ou est-ce que la grâce devient une espèce de prétexte pour me dire, c'est pas grave, je peux y aller, Dieu est amour? Est-ce que je respecte la sainteté de mon Dieu? Dieu est saint. Nous ne pouvons entrer dans ses plans qui sont saints, dans ses projets qui sont saints, et dans sa bénédiction, que si nous sommes saints tout autant, il l'est, si nous sommes sur la même longueur d'onde pour cheminer ensemble, pour avancer ensemble. Dieu place la barre très haute, et de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu reste le même. Dieu déteste le péché parce qu'il est saint. Dieu punit le péché parce qu'il est juste. Voilà pourquoi dans tout l'Ancien Testament, la leçon, c'est que le peuple d'Israël était puni lorsqu'il ne respectait pas Dieu, et il était béni lorsqu'il respectait Dieu. Alors pour nous qui sommes chrétiens, comme j'ai dit tantôt, les exigences sont les mêmes, mais la façon dont on entre en relation avec Dieu est différente, et je rends grâce à Dieu pour ça, parce que je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être d'essayer de respecter une liste de 613 commandements tous les matins. Pour nous qui sommes chrétiens, notre sainteté est en Jésus-Christ. C'est lui notre sainteté. 1 Corinthiens 1:30, l'apôtre Paul dit « Il est notre sagesse, notre vérité, notre justice, notre sainteté ». Heureusement, c'est pas ma sainteté dont je me revais, c'est pas moi qui ai fait quelque chose pour me sanctifier, c'est en Jésus. On est caché en Christ. C'est Jésus qui a vécu à notre place une vie parfaite, une vie sans péché, la vie que nous aurions dû vivre. C'est Jésus qui nous a donné sa vie. Sa justice a été mise sur notre compte. J'aime bien comme l'apôtre Paul l'exprime dans Galates 2:20. L'apôtre Paul dira, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Quand Dieu notre Père nous regarde, il voit son Fils à travers nous. C'est lui qui a pris tout notre péché. C'est encore au nom de Jésus-Christ que nous recevons le Saint-Esprit. J'aime bien le rappeler, le Saint-Esprit. Nous devenons son temple. C'est notre marque, la marque que nous appartenons à Dieu, le gage de l'héritage à venir. Cependant, même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes saints, nous ne sommes pas non plus à l'abri de ne pas pécher. Qui ici n'a jamais péché, qui ne pèche plus? Je pense que, chrétiens, nous sommes pardonnés de nos péchés, mais on continue à trébucher. Heureusement que la grâce est là, le Seigneur nous pardonne, mais c'est à nous à redémarrer et dire, Seigneur, aide-moi à corriger le tir pour respecter ta sainteté. Parce que tu me le demandes, parce que nous le devons, mais parce que je t'aime et parce que je le peux en toi. De nos jours, il faut aussi le dire, le péché n'est plus qu'un mot que l'on met au banc des vieux mots de l'Église. Parfois, le péché est vu juste comme un défaut, quelque chose qui n'est pas bien méchant. Parfois, on entend dire que le péché, c'est juste rater le coche, une petite imperfection. C'est pas grave, j'ai un peu trébuché, mais c'est pas bien grave. Alors, d'un côté, c'est vrai, c'est le sens lexical du mot péché, mais bibliquement parlant, le péché est une révolte contre Dieu. Nous avons besoin de corriger notre compréhension de ce qu'est le péché. Ce n'est pas un petit défaut, le péché. C'est une révolte contre Dieu. On pourrait se dire, en quoi est-ce une révolte? Le péché, c'est un rejet de qui est Dieu. Il est saint. Quand je pèche, je rejette qui il est. Je crache sur son caractère. Le péché, c'est un rejet de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est contre sa volonté. C'est une rébellion, fondamentalement. Plus que jamais, cet appel à respecter la sainteté de l'Éternel résonne encore aujourd'hui. À l'époque, des hommes comme Moïse et Josué allaient jusqu'à enlever leurs chaussures pour paraître dans la présence de Dieu. Ainsi, un chrétien ne devrait jamais prendre le péché à la légère, parce que son Dieu qui est saint ne le prend pas à la légère. Il n'y a pas de place pour relativiser le péché. Il n'y a pas de place pour chercher à justifier le péché. Il n'y a pas de place pour mettre le péché uniquement sous le compte de la grâce en disant « c'est pas grave, je vais continuer ». Rappelons-nous que le péché, ça a conduit le Fils de Dieu à la croix. Il est vrai que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que la grâce surabonde que le péché est moins grave aux yeux de Dieu. Tout être humain devra répondre de ses actes devant Dieu. Que la grâce de Dieu ne serve donc pas simplement à couvrir nos péchés, mais qu'elle soit aussi une puissance qui transforme nos vies. J'aime bien comme John Piper l'a exprimé. John Piper est un auteur chrétien, un théologien également. Il explique que la grâce de Dieu ne consiste pas simplement à pardonner les péchés. Elle transforme notre cœur. On passe d'un cœur qui a envie de pécher, qui par la grâce de Dieu devient un cœur qui a envie de plaire à Dieu, d'aimer son Dieu, d'aimer son prochain. C'est ça le travail de la grâce. Mon péché est pardonné, mon cœur est transformé. Paul a voulu exprimer cette réalité en Romains 6, 14, lorsqu'il a dit « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Ainsi, la sanctification reste toujours un programme d'actualité pour le chrétien. Ainsi, Josué et le peuple à sa suite se retrouvent en présence d'un Dieu saint. C'est ce Dieu-là qui veut les conduire dans le repos promis, dans la promesse. Mais cette promesse ne deviendra réalité qu'à condition qu'Israël respecte sans faillir la sainteté de l'Éternel. Malheureusement, quand on regarde un peu l'actualité aujourd'hui, nous découvrons qu'Israël n'a toujours pas de repos, toujours pas le repos promis, en tout cas à la hauteur des promesses de Dieu. Où est le problème ? Le respect de la sainteté de l'Éternel, l'obéissance à sa parole, le fait de rechercher ses plans, sa volonté. En conclusion, quand je dis en conclusion, c'est-à-dire il reste moins de 2 minutes, en conclusion, je le précise parce que parfois j'entends en conclusion, et puis on est parti pour 20 minutes. En conclusion, à la lumière de ce passage, nous avons vu trois enseignements avec pour thème « Entrer dans les promesses de Dieu ». Nous avons vu premièrement que « Entrer dans les promesses de Dieu » demande d'abandonner nos plans pour suivre les plans de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire qui compte, pas ce que je veux faire. Ce que je fais, ça ne dure qu'un temps, je mourrai, mais ce que Dieu fait dure éternellement. Ce que Dieu fait. Deuxièmement, nous avons vu qu'écouter Dieu est important, mais que l'écouter, ça signifie mettre en pratique ce qu'il demande. Obéir, lui faire confiance. Et troisièmement, qu'entrer dans les promesses de Dieu implique de respecter la sainteté de l'Éternel. Parce que je marche à la suite d'un Dieu qui est saint, qui trace une voie qui est sainte. C'est sur ce chemin que nous sommes appelés à marcher. Ce n'est pas le chemin le plus facile, il faut le dire. Christ n'a jamais dit que ce serait facile. Il a même parlé de porter sa croix pour le suivre. Mais c'est le seul chemin. C'est le chemin que Jésus-Christ a tracé. C'est le chemin qu'il a parcouru lui-même sans faille. Il nous laisse un exemple. Et c'est là où il a réussi, là où le peuple d'Israël a trébuché. Et là où nous échouons, ou là où nous échouons tous aussi à cause de notre propre péché. C'est donc en restant attaché à Jésus, en lui faisant confiance, en lui obéissant, que nous entrons dans les promesses de Dieu et dans le repos pour notre âme. Je terminerai juste avec un verset. Hébreux chapitre 12, pour ceux qui connaissent bien l'Épître aux Hébreux, il y a chapitre 11, juste avant le 12. Le 11, ce sont les héros de la foi, liste incomplète, on pourrait rajouter Luther, Calvin, etc. Et au chapitre 12, il est écrit ceci, « Nous donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui ont combattu le bon combat, qui ont été fidèles jusqu'au bout, parfois jusqu'à la mort, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. C'est lui, en effet, qui fait naître la foi, et c'est lui qui mène notre foi à la perfection. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour ta parole, la Bible. Seigneur, merci encore pour ce qui a été dit ce matin. Nous voulons demander que cette parole fasse son œuvre dans nos cœurs. Nous voulons demander pardon parce que, bien souvent, ce n'est pas toi qui es au centre, mais nous, nos plans, nos projets. Seigneur, nous voulons encore mieux te connaître. Nous voulons dire comme les disciples, augmente notre foi. Apprends-nous à te faire confiance, à trouver du plaisir, à mettre en pratique ta parole. Seigneur, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui vont venir, donne-nous de vivre cette parole et montre-nous exactement là où nous en sommes, là où il doit y avoir du changement. Nous demandons ta bénédiction, nous t'aimons et nous voulons glorifier ton nom, dans le nom de Jésus. Amen.